Notre travail, il est centré sur les apprentissages premiers, en particulier sur la maternelle et le CP, et cette articulation grande section CP. C'est peut-être dès ce moment-là que commencent à se produire des phénomènes qui conduiront les élèves à être de plus en plus marginalisés et à finalement se marginaliser eux-mêmes de plus en plus jusqu'à devenir décrocheurs par la suite. Et nous pensons, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, que l'école maternelle pourrait jouer un rôle crucial pour une école plus inclusive socialement, sauf que ce n'est pas à n'importe quel prix. Ça impliquerait de ne pas ignorer quelles sont les pratiques sociales et les pratiques sociales qui impliquent des connaissances, en ayant toujours en clair plusieurs questions. Quelles sont les connaissances que les élèves qui n'ont que l'école pour apprendre ont l'occasion d'acquérir ? En effet, on a pu constater assez souvent dans nos travaux que finalement, à un moment donné, et particulièrement au CP, vont être demandés aux élèves de manifester des connaissances, d'être capables de mettre en œuvre des connaissances qu'on ne leur a jamais enseignées. Alors, bien sûr, les enfants apprennent aussi hors de l'école. Mais sur certaines choses, ces élèves qui n'ont finalement que l'école pour apprendre, parce que pour une raison ou pour une autre, leur environnement social n'a pas pu leur fournir beaucoup, mais c'est normal finalement. Ces élèves-là, qui sont les élèves les plus normaux qui soient, puisque ce qu'ils doivent apprendre s'apprend à l'école, eh bien finalement se retrouvent parfois comme un peu les dindons de la farce, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que mais finalement ils vont sembler bêtes, entre guillemets, par rapport aux autres qui savent, mais qui d'une certaine manière ne devraient pas savoir, puisqu'on ne leur a pas plus enseigné qu'aux autres. Donc déjà, il y a ça. Et puis, est-ce que ces connaissances que l'école apprend, est-ce qu'elles sont suffisantes pour réussir au niveau suivant ou dans l'objectif des connaissances du socle commun ? Et puis, et je crois qu'on va insister un peu aujourd'hui là-dessus, parce que c'est peut-être un peu plus près de votre groupe de travail, de quel savoir disposent les professeurs pour faire face aux transmissions à réaliser. En effet, nous ne sommes pas du tout dans une approche culpabilisante et qui accuserait les professeurs individuellement d'être déficients par rapport à ces transmissions, mais dans une réflexion sur les savoirs dont ils peuvent disposer et dont la profession enseignante en tant que collectif dispose pour réaliser ces transmissions. Il y a des façons très différentes d'exprimer une opinion et un choix, et en particulier suivant que on le regarde dans l'univers de l'oralité ou dans l'univers de la littératie. Et ça, je pense que ça va réveiller Marceline à côté, qui ne dormait pas, hein, qui attendait juste très sagement. Comme définition de l'oralité, nous adoptons une définition que j'ai un tout petit peu changée par rapport au texte que vous pouvez trouver, et qui est quand un groupe humain pratique des échanges en coprésence. C'est-à-dire que les gens sont là, comme là vous êtes ici, verbaux ou non, oralité n'est pas orale pour nous, sur et à l'aide d'objets du monde, il y a des choses tangibles qui sont là, en mettant en jeu les ressources corporelles dont ils disposent, le corps est très important dans cette question, on y reviendra, hein, de manière fortement routinisée.
Tu veux dire un mot sur les procédures de choix dans l'oralité ou tu veux que je continue ?
Non, vas-y, continue.
Je continue. Dans ce cadre...
C'est une définition qui peut vous sembler étrange. Elle est contre-intuitive. Bon. On reviendra peut-être dessus à la fin, pour vous montrer que cette notion éclaire ce qui se passe dans cette séquence, et que si on ne l'a pas à disposition, on ne comprend pas ce qui se passe. Faute d'une notion de ce type, et je répète bien, vous voyez, c'est pas oral, vous jetez oral par la fenêtre, on n'en a pas besoin, c'est oralité qui nous importe. Vous allez voir par exemple que dans cette séquence, si ça marche, comme on dit, c'est parce qu'il y a des routines qui organisent les corps et le mouvement des corps dans la classe. Vous voyez, des routines scolaires. Les gosses ont l'habitude de faire un certain nombre de choses avec leur corps, et rien que leur corps. Alors, ils papotent pendant ce temps-là. Ça, c'est pas gênant. Il y a de l'oral, oui, mais il va être du papotage. Mais ils bougent dans la classe de manière extrêmement régulée. Et vous allez voir, l'enseignant, sans s'en rendre compte, si ça marche, c'est parce qu'elle s'appuie sur ça. Alors qu'elle, elle croit s'appuyer sur des ressources de l'oral et de l'écrit. Vous voyez, voilà pourquoi on vous donne cette notion un peu bizarre, sinon.
C'est pas pour faire chic. Et effectivement, on vous la donne au début, alors que vous allez voir pourquoi on en a besoin au fur et à mesure. Mais il n'y a jamais de bon moment pour apporter ce genre de choses, donc c'est au début. Voilà. Mais ça aurait pu être plus loin et ça aurait été pareil. Et je vais revenir dans la diapo suivante sur la question d'exprimer son opinion quand on est sur un mode de l'oralité. Et puisqu'on a posé oralité, on va poser littératie, puisque pour nous c'est un couple qui ne s'oppose pas, mais qui un couple dialectique, si vous voulez. Quand un groupe humain se meut et agit dans un espace qui organise les corps et les objets, donc on retrouve les corps et les objets qu'on avait dans la définition, je ne sais pas si c'est vraiment une définition, mais précédente, donc qui organise les corps et les objets du monde selon les ressources fournies par l'écrit. Et ce qu'on veut dire ici par ressources fournies par l'écrit, il ne s'agit pas que de l'écrit linguistique, il s'agit aussi des lignes, des colonnes et de tout ce que l'écrit permet d'organiser, en référence en particulier à l'anthropologue Jack Goody. Donc selon les ressources fournies par l'écrit, et pratique un usage raisonné et organisé de ces ressources. Il y a un côté systématisé, si vous voulez, raisonné et organisé, systématique, de ces ressources fournies par l'écrit. Et là aussi, ça n'est pas de l'écrit, en tout cas, ce n'est pas de l'écrit au sens linguistique du terme, on n'est pas dans la correspondance phonographique, graphophonique, ce n'est pas ça. Et là, vous en aurez des exemples assez nombreux par la suite. Alors, il va se passer ici quelque chose de très important, pour nous, c'est que la maîtresse, elle veut absolument dire comment on va faire pour s'en souvenir. Parce que pour elle, l'écrit, c'est la fonction communicationnelle de l'écrit. Et elle va vouloir qu'ils obtiennent, dans le tableau que vous avez vu tout à l'heure avec les couleurs, qu'ils écrivent les nombres pour pouvoir se souvenir. Or, les élèves, quand ils ont compté par couleur, donc là, je fais un raccourci saisissant, hein, ok. Elle leur a dit, bon, on compte par couleur. Donc, ils ont compté les bleus, les roses, les rouges, les jaunes. Ils n'ont pas encore compté les oranges. Ils ont réalisé ça. Or, en réalisant ça, si la maîtresse avait comme piste le fait que dès qu'il y a une ligne, il faut s'interroger. C'est-à-dire que quand il y a une ligne, il y a de la littératie. C'est peut-être idiot, hein, comme raccourci. Mais quand même, c'est un petit peu ce qui se passe, là. Eh bien, ça lui aurait permis de comprendre que ce qu'ils avaient fait là était extrêmement important. Et d'y accorder de l'importance. Pourquoi ? Eh bien, parce que on voit comment est-ce que... excusez-moi. Vas-y.
T'es sans doute allé un peu
vite. Oui, j'étais un peu vite.
Je pense que vous ne comprenez pas tout, mais vous êtes bien élevé, donc vous êtes comme les enfants, vous ne dites rien. Mais bon... ils ont des problèmes de comptage, à un moment donné. Et... il y en a un qui va, pour régler ce problème d'énumération, va entamer... Il fait un petit train avec les bulletins. Vous voyez, il met les bulletins bout à bout et il les met par couleur. C'est ce que vous avez sur le... Bon. Ça, c'est prodigieusement passionnant. Parce que ce faisant, il est dans l'univers de la littératie. Il a fait un espèce de... pas de saut, mais... les lignes, mettre bout à bout, il l'a vu souvent. Et d'une certaine manière, à savoir une connaissance qui était chez lui, il l'utilise là. Tous les élèves qui sont autour de lui sont d'accord sur ce qu'il fait. C'est donc bien que ces connaissances sont partagées. Mais Le saut dans la littératie, c'est paradoxal, ce sont les élèves qui le font. Vous voyez, ce n'est pas l'enseignante. Et elle ne va pas reconnaître ce saut dans la littératie, parce que ce n'est pas comme ça qu'elle avait prévu d'y aller. Elle veut un tableau. Elle veut, entre un tableau et la ligne qui est là, c'est la même chose. Vous voyez, et ça, elle ne peut pas le voir.
Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Voilà. C'est la même chose, décidément. C'est que finalement, imaginons, faisons un peu de didactique fiction, de passer de ce que les élèves ont fait, première image au-dessus, à l'image qui est en dessous, dans laquelle c'est ordonné. C'est une des possibilités, ce n'est pas la seule. Hein. Il n'y a pas une différence énorme. Les élèves savent que 2, c'est plus petit que 3, c'est plus petit que 5 et c'est plus petit que 6. On pourrait très bien imaginer d'ordonner. Ce n'est pas obligatoire hein, par rapport à la description. On pourrait aussi imaginer, si on veut vraiment mémoriser, si on ne veut pas garder toutes les étiquettes, de les réunir et une fois que c'est réuni en tas, d'écrire dessus le nom pour se souvenir que dans le tas, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 5 et il y en a 6. Il y a une évolution à chaque fois qui est relativement modeste. Et on pourrait aussi imaginer de ne plus avoir l'intégralité du tas et de garder seulement l'étiquette sur laquelle on a écrit le nombre, l'étiquette de couleur sur laquelle on a écrit le nombre. Si je vous montre ça, il y a bien sûr d'autres possibilités. On n'est pas du tout obligé d'ordonner. Hein. Ça ne sert à rien en réalité par rapport à ça. Donc c'est le plus discutable, je dirais. Mais si on vous le montre, c'est parce que ça renforce ce que vient de dire Marceline, c'est-à-dire que ce pas qu'ils viennent de faire, il est très important pour le passage que finalement elle voudrait, et qui est ce passage qui va passer par un écrit de communication. Sauf que, demander... alors, le pire, c'est que ça va être détruit tout de suite. Parce qu'elle a bien compris, la maîtresse, parce qu'elle est très fine. Elle comprend très bien que tant qu'il voit les quantités, et là, il les voit bien, quand elle leur dit « on ne va pas recompter à chaque fois », quand ils leur produisent ça, ils produisent bien quelque chose dans lequel on n'a pas besoin de recompter à chaque fois, puisqu'on voit quand même très facilement les quantités. Bon, entre 5 et 6, c'est un peu plus dur. Mais enfin, ce n'est pas si dur que ça. Et du coup, ils répondent bien à la consigne. Et elle comprend bien que quelque part, elle est embêtée avec ça. Et donc, elle va faire un truc qui est quand même très violent. Plusieurs fois de suite, d'ailleurs, elle va réunir toutes les étiquettes en disant « Non, non, mais moi, je veux pas ça. » Donc, vroom, elle réunit tout. Et du coup, parce qu'elle voudrait qu'il fasse un espèce de saut, alors que nous, on peut décrire comme étant un saut quand même assez fort, entre ce qu'ils étaient en train de faire et puis écrire le tableau. Et ce saut, elle ne l'obtiendra qu'en leur disant « Va écrire dans le tableau ». Donc là, tu vois, il y a deux, il y a bleu, donc tu vas écrire à côté du bleu. Combien tu dois écrire ? Le gosse ne sait pas. Deux, bon. Donc il se retrouve dans une tâche dans laquelle il doit écrire deux à un endroit qui est déterminé par la maîtresse. Et d'ailleurs, souvent, ils ne savent plus du tout où ils doivent écrire leur nombre et elle est obligée de leur montrer avec le doigt où ils doivent écrire. Autrement dit, on voit la dégradation de la tâche qui va devenir quelque chose de quasi inexistant, c'est-à-dire juste écrire un chiffre, bon, même s'ils ont du mal à écrire le chiffre, d'accord, parce qu'ils mettent dans l'autre sens, etc., alors que l'occasion de faire autre chose était possible. Je vous montre juste que c'est... Qu'est-ce que ça va donner au CP, cette histoire-là ? Eh bien, ça va donner ça. Quand on doit... les élèves, pour la première fois, doivent compléter cette égalité. 1 plus 2 plus 2, et vous voyez qu'il y a le dessin aussi des petites noisettes en dessous. Ceux qui savent reconnaîtront le manuel, mais il se met complètement égal. Ce manuel-là ou un autre, c'est pareil. L'élève qui écrit ce qui est écrit là, et qu'évidemment je ne peux pas prononcer, puisque si je dis 1225, je fais honte à son intelligence, puisque ce qu'il a essayé de faire, vous avez bien compris, déjà, il a écrit 5, donc il a parfaitement compris qu'il y en avait 5, mais il ne sait pas comment écrire le résultat. Donc il essaye de rendre compte de l'expérience qui est donnée par les noisettes, qu'il a vues par ailleurs dans une boîte. Donc il essaye d'écrire tout ce qu'il faut pour écrire l'expérience. Hurlement, voilà, la maîtresse est nettement moins gentille, on va dire, au CP. C'est le hasard. Mais hurlement de la maîtresse, qui est scandalisée. Même hurlement, le même jour, pas avec le même élève, heureusement. pour un élève qui, quand on a mis 2 et encore 2 et encore 2 noisettes dans une boîte, écrit 2 plus 2 égale 2 égale 6. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Parce qu'il n'avait encore jamais vu d'égalité avec trois nombres. Donc, lui, il sait qu'il y a un nombre, un plus, un nombre, un égal, un nombre. Et alors, avec 3, on fait comment? Il n'en sait rien. Mais il sait qu'il y en a 6. Et il essaye de se servir de l'écriture mathématique. Mais ça, il n'a pas le droit. C'est horrible. Tu te rends compte, tu écris 2 égale 6. Mais il n'a jamais écrit. Il n'a jamais pensé que 2 égale 6. Alors, il l'a écrit, certes, mais il ne l'a pas pensé. Il y a une violence terrible à dire à l'enfant qu'il a écrit quelque chose qu'il n'a jamais pensé. Ce qui va se passer, c'est que il y a plusieurs choses qui vont, d'une certaine manière, se heurter sans que ce soit apparent, sauf pour l'observateur que nous sommes et que vous êtes, et qui observe les choses avec un petit peu de détail. En effet, la profession enseignante, alors j'ai mis profession enseignante en italique parce que je voudrais vraiment distinguer ce qui ne relève absolument pas du professeur personnellement. Je pense que n'importe quel professeur aurait fait ce que le professeur que nous allons observer fait, qu'en plus elle le fait particulièrement bien, donc ça aurait pu être pire, vraiment, nettement. Dans le sens de, par exemple, violent, bruyant, etc., dans une mauvaise ambiance. Là, c'est dans une ambiance extraordinairement sereine. Alors, de quoi est-ce qu'elle dispose, cette profession enseignante et donc cette maîtresse? De la distinction oral-écrit. Comme une dichotomie absolue. Sachant que l'oral, c'est le langage, c'est important à la maternelle, mais ils sont en grande section, plutôt à la fin de la grande section, on est au mois de juin. Donc ce qui va être important, c'est l'écrit quand même, avec une distinction, une hiérarchie. C'est quand même l'oral qui est subordonné à l'écrit. Hein. Donc de ce fait, le travail du vote, dans une première phase, ça serait de l'oral, en quelque sorte. Et puis il va falloir arriver à de l'écrit. Je ne l'ai pas marqué sur la diapo, mais vous vous doutez bien que ça va finir comme ça. Et le problème, c'est que ça méconnaît la distinction qu'on a fait très rapidement avant, hein, mais quand même, entre des formes qui sont anthropologiquement très différentes et qui ont leur légitimité dans la même société. La société française, n'importe quelle société, à par moment fonctionne suivant l'univers de la littératie et par moment fonctionne suivant l'univers de la de l'oralité. Et ça va dépendre de ce qu'on fait. Donc il y a des conditions, des situations qui vont faire basculer d'une forme anthropologique dans l'autre. Et puis, méconnaissant cette distinction, va finalement méconnaître les connaissances des élèves sur ce qui pourrait se faire pour organiser un choix collectif. Parce qu'en fait, les élèves savent des choses sur ce qu'on fait quand on organise un choix collectif. Ils en ont déjà vécu, ne serait-ce qu'à la récréation, à quoi on veut jouer, etc., dans leur famille. Ils ont vécu des choix collectifs, et cette connaissance qu'ils ont va leur être déniée, d'une certaine manière, au profit d'une organisation dont nous allons voir qu'elle va être de plus en plus obscure et de plus en plus opaque au fur et à mesure de l'avancée de la situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant de ces petits papiers? Alors, Schumann dit, on va les compter. Un élève, les éparpiller. On va choisir la couleur. On va les remettre dans la boîte. On n'est pas rendu. Parce qu'elle les a sortis pour les énumérer, d'accord? On colorie. On pourrait aussi découper. Je te regarde.
Coller, enfin, dessiner. Et la raison pour laquelle ils vont faire des propositions extraordinairement ouvertes, c'est que les étiquettes ont une matérialité. Les petits papiers ont une matérialité. Et ils en ont l'habitude. Quand on a des petits papiers, qu'est-ce qu'on fait avec des petits papiers? Et vous voyez, rien que le fait de les appeler des petits papiers et de ne pas les appeler des bulletins, instantanément déclenche une valeur d'usage. Et va, bien évidemment, cantonner dans cette valeur d'usage les élèves, en les empêchant d'apprendre une nouvelle valeur d'usage. Donc, ils reconnaissent et, alors, parenthèse, ils ont toujours l'air idiots dans ces cas-là. C'est ça qui est dramatique. Est-ce que vous, l'observateur ou le maître qui attend qu'on trie et qu'on sache combien il y a de bulletins bleus et combien il y a de bulletins verts et combien il y a de bulletins roses, quand un élève lui propose de les découper, le gamin a l'air absolument au 36e dessous du... Il est perdu pour l'école. Il est perdu pour l'école. Retenez-le, celui-là. Vous les cherchez, vos décrocheurs. Hein ? Parce qu'il apparaît, en plus, comme totalement idiot. Alors, comme elle est bienveillante, elle ne lui manifeste pas qu'il est idiot.
Vous allez voir, sur un exemple qu'il a épris sur une enfant de 4 ans, mais ça aurait pu être moyenne section ou grande section aussi. C'est-à-dire que finalement, ce que la maîtresse ne met pas en évidence dans la situation, eh bien, sont bien des connaissances, d'une part, dont les élèves ont besoin, et d'autre part, qui sont très souvent pas enseignées, alors qu'on peut le faire. Et je vais passer par une toute autre situation, qui est celle du tri de ce qu'on a appelé, nous, les jetons marqués, dans un travail qu'on avait commencé ici, d'ailleurs, quand j'étais en détachement à l'INRP, il y a 10 ans. On a des jetons qui sont tous de la même couleur. Sur certains jetons, il n'y a rien du tout. Ils sont jaunes entièrement. Et sur d'autres jetons, sur une seule face, il y a une gommette que vous voyez là sur l'image qui est verte. Et ce qu'on va demander aux enfants, c'est de trier les jetons. Alors, je ne vais pas dire grand-chose sur ça, mais quand même, j'ai besoin de deux, trois petits trucs. Alors ici, vous voyez que Pauline, sur la deuxième photo... elle a commencé à extraire des jetons sur lesquels elle voit la gommette et elle les met ici dans un petit endroit à part. Par contre, au début, quand elle prend un jeton et qu'elle le retourne pour voir s'il n'y a pas une étiquette en dessous, elle le remet ici dans le tas. Mais au fur et à mesure de l'activité, vous voyez qu'il y a beaucoup de jetons. Hein. Bon, alors vous pouvez nous poursuivre pour... outrage à enfant, enfin bon, voilà, des tortionnaires abominables, beaucoup de jetons à trier, ce qui fait que le nombre de jetons qu'il y a à trier, la quantité de jetons à trier, au passage, ça pourrait nous emmener ailleurs, mais ça serait intéressant, mais bon, bref, fait qu'elle va finir par mettre quelque part les jetons dont elle sait qu'ils n'ont pas de gommette. C'est-à-dire que quand elle les retourne, au lieu de les remettre dans le tas, eh bien, elle va commencer à faire un petit tas ici de ce qui a été trié et qui n'a pas de gommette. Seulement, vous voyez, là, c'est assez près du tas des objets non traités. Et du coup, ça va se mélanger. C'est-à-dire qu'elle a eu une petite idée, mais finalement, elle n'a pas été jusqu'au bout. Alors, comment est-ce qu'on peut le décrire, ça? Eh bien, quand on doit faire un tri, on a trois grands espaces. On a l'espace des objets qui sont traités et qui vont se séparer en deux quand on a un tri, en plus de deux si on a un classement, je ne vais pas insister. Puis on a l'espace des objets non traités. Et puis ici, c'est ces mains, là, on a un espace de traitement. C'est une description très générale de ce qu'est le tri et ça permet de se poser des questions sur de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire un tri. Par exemple, si au lieu d'avoir des jetons qui se posent bien sur la table, vous avez des boules qui roulent, eh bien, il ne suffira pas de les poser dans un endroit pour qu'elles restent bien gentiment. Et donc, peut-être bien qu'utiliser, par exemple, des coupelles. Hein. Là, vous voyez qu'il y en a, en fait, implicitement. Je ne vous décris pas tout. Ça pourrait être utile. Bref, trier, mais aussi dénombrer, ça va impliquer ce traitement des espaces. Et là, c'est d'autres travaux que nous avons fait avec Marceline et que j'ai fait aussi avec Floriane Vosniak, qui montrent que jusque... Alors même, j'ai un travail récent fait par une étudiante sur des étudiantes en ergothérapie, je crois. Donc jusqu'à 25 ans, ça peut encore poser des problèmes. Et peut-être au-delà, s'il y a des volontaires pour trier, vous vous inscrirez à l'atelier après. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vote ? Eh bien, c'est parce que la maîtresse, elle utilise les espaces pour énumérer cette collection d'objets déplaçables que sont les élèves. Bien sûr, elle sait le faire. Alors, comment elle va faire? Eh bien, il y a les bancs où les élèves étaient. C'est l'espace des objets non traités. J'ai repris exprès le même vocabulaire. C'est évidemment, c'est des élèves, hein, mais en l'occurrence, c'est comme si c'était des objets. Et puis, il va y avoir le déplacement de la maîtresse. Là, vous voyez qu'elle prend la main d'un enfant, en fait, pour l'amener de l'espace des bancs, ici, à l'espace où il va voter, qui est derrière l'armoire, là. Il va y avoir le dépôt du bulletin dans l'urne, c'est l'espace de traitement. Et puis, l'étape du goûter, c'est l'espace des objets traités. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Eh bien, ça m'intéresse parce que ces connaissances de la maîtresse, c'est des connaissances incorporées dans l'univers de l'oralité. Elle sait qu'il faut faire quelque chose comme ça. Elle sait qu'il faut séparer ces trucs-là et que sinon, on ne va pas y arriver. Et que sinon, ça va être le bazar. Il va y avoir des enfants partout et on ne saura pas qui a voté et qui n'a pas voté. En même temps, c'est incorporé pour elle et ça a des limites, comme toutes les connaissances incorporées. C'est implicite, c'est efficace, c'est très sensible au changement. Quand on est dans des conditions qu'on n'anticipe pas bien, ben finalement, on ne sait pas faire. Ça se transmet dans le même univers. Et finalement, comme l'énumération ne fait pas partie pour l'instant des savoirs de la profession, c'est en train de bouger un tout petit peu, mais c'est très, très, très lent, eh bien, l'organisation du vote et de beaucoup d'autres activités, y compris des activités de dénombrement, va être conçue par les maîtres, et là, en l'occurrence, par cette maîtresse-là, sur le mode du quotidien. Et du coup, c'est son travail à elle. Elle ne pense pas une seconde qu'elle pourrait se poser la question avec les élèves de savoir comment est-ce qu'on va faire pour être sûr qu'on a bien voté tous une seule fois. C'est-à-dire chacun une seule fois et pas plusieurs, mais aussi qu'on a bien voté tous. Elle ne pose pas la question alors que, c'est pour ça que je vous ai montré Pauline jusqu'avant, dans de très nombreuses activités à l'école, les élèves vont être obligés de le faire pourtant, cette organisation. Tout le temps. Alors, je peux même vous dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon. Et pourtant, ça va être traité par elle sur le mode du quotidien parce que du côté de la profession, c'est pas dans les savoirs de la profession. Donc, on n'a pas de raison de faire la dévolution de cette partie-là de la situation puisqu'il n'y a rien à apprendre. Il n'y a pas d'oral, on dit rien. Donc, il n'y a pas de langage, hein, ces moments de langage dont on parle à la maternelle. Puis, il n'y a pas d'écrit, donc c'est qu'il n'y a rien. Donc, c'est les maîtresses qui s'organisent. Donc, les élèves ont compté les présents. Elle n'arrive pas à obtenir combien est-ce qu'il pourrait y avoir d'étiquettes dans la boîte. Bon, on va le regarder. C'est elle qui sort les étiquettes, les unes après les autres. Donc, c'est elle qui produit l'énumération et les élèves récite la comptine. Et on voit bien qu'est-ce qui est du côté de quelque chose dont on ne demande pas aux élèves de savoir le faire et qu'est-ce qui est du côté de ce que les élèves doivent savoir faire, c'est réciter la comptine. En mathématiques, c'est régulier. Ils récitent la comptine toute la journée. En français, au CP, ils font aussi tout un tas d'opérations toute la journée. Les autres opérations, par exemple sortir les étiquettes les unes après les autres, les mettre dans un espace dans lequel on a les étiquettes déjà comptées, etc., etc. Ça, par contre, c'est la maîtresse qui le fait sur un mode complètement du quotidien. C'est une occasion ratée qui n'a pas d'importance ponctuelle si elle n'était pas à la fois prévisible et régulière. C'est-à-dire que c'est tout le temps comme ça. Dans une situation problème sur laquelle on a une publication, l'élève, en fait, il fallait écrire 12 moins 5 égale 7, si vous voulez. Sauf qu'ils n'ont pas étudié la soustraction. Le gamin a compris que le résultat, c'était 7. Il sait que d'habitude, le résultat se trouve après le signe égal. Les données, c'est 12 et 5. Là, il écrit 12 plus 5 égale 7, qui est la seule chose qu'il sait écrire. Mais là encore, il ne l'écrit pas parce qu'il pense que 12 et 5, ça fait 7. Il sait très bien que ça fait plus que 12. Et il sait aussi sans doute que ça fait 17. Mais il le sait. Mais par contre, il ne sait pas comment faire. Mais ce jeu, ce travail sur l'écrit est impossible. Et là, pareil, un maître qui pourtant, alors lui, est gentil, très bienveillant, va dire « Non, mais là, c'est complètement faux. » Donc, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est à la fois la difficulté qu'il y a finalement, la description des savoirs à destination des professeurs, elle n'est pas adéquate. Et ce n'est pas uniquement un problème adressé à la formation initiale, mais c'est un problème pour nous tous, les professeurs, les formateurs, les personnels d'encadrement, parce que c'est la faute de personne. Là, on voit bien que les professeurs, ici, sont englués dans une certaine conception de ce qu'est un écrit qui ne peut être que normé et un oral qui ne peut être que de fantaisie, d'une certaine manière.
Si vous voulez, on va passer progressivement, puisque pour retrouver le thème de votre formation, mais d'une phase où nous nous identifions soit des connaissances ignorées, soit des connaissances déniées, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues. Elles sont là, mais elles ne sont pas reconnues, ou elles ne sont pas enseignées. Donc, à des situations qu'on pourrait décrire en termes d'absence d'enseignement, progressivement, quand on va voir les élèves vieillir, vont apparaître, ce qui n'apparaît pas en maternelle, où ils ne sont jamais dans ces situations-là, mais progressivement, les élèves vont avoir l'air de produire des connaissances fausses. Vous voyez, et c'est ce passage qui est d'une violence extraordinaire. Et ce n'est pas hasard si nous voyons les premiers signes de décrochement dans l'activité dès le CP. Dès le CP. On voit des élèves qui donnent des signes, ils réagissent à cette extraordinaire violence, vous voyez, qui leur est faite, puisque rien ne leur permet de comprendre ce qui leur arrive.